Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Y'a pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes les élèves de 3e du collège Les Ormeaux. Vous êtes sur Silab et nous allons vous parler de différents sujets qui suscitent le débat chez les jeunes.
On va vous parler des LGBT-phobies, des effets du Covid sur l'activité des bars et restaurants, de la 5G et de l'utilisation des réseaux sociaux par les politiques.
Cette émission sera accompagnée d'un temps de débat en direct sur la 5G avec nos deux invités. Tout d'abord, Marina Marionneau, citoyenne rennaise qui a été tirée au sort pour participer à la mission 5G de Rennes. Et puis Alphaël, militant au sein du collectif écologiste Extinction Rébellion.
C'est parti, on démarre tout de suite.
On commence cette mission avec un sujet sur les LGBT, phobie préparée par Thibaut, Pantine, Lisa, Elise et Fantine.
Dans le monde d'aujourd'hui, on nous dit que tout le monde est tolérant et que chacun peut être ce qu'il veut. Mais qu'en est-il quand on doit assumer son identité sexuelle ou son genre et qu'ils ne sont pas dans les normes ?
Les LGBT+ phobies sont présentes dans le monde actuel auprès des jeunes comme des plus vieux. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette émission.
Pour introduire le sujet, Ulysse et Thibaut sont allés faire du micro-trottoir dans la cour du collège. Ils se sont posé quelques questions à une élève.
Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire l'acronyme LGBT ?
Non.
Lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Donc, est-ce que tu as des connaissances ou des amis qui sont LGBT au sein du collège ?
Non, pas spécialement.
Et comment tu penses que tes parents réagiraient si tu leur annonçais que tu soutenais la cause LGBT ?
Je pense qu'ils diraient que ce n'est pas mal parce qu'on choisit un peu ce qu'on souhaite.
Et à ton avis, est-ce qu'il y a assez de choses mises en place au sein du collège contre les discriminations LGBT ?
Non.
Ah ouais, et tu proposerais quoi comme type de choses qu'on pourrait mettre en place ?
Des associations pour pouvoir aider ces personnes-là.
Ok, bah merci du coup.
Ouais, merci.
Merci Thibaut et Ulysse pour ce micro-trottoir et merci à cet élève d'avoir participé.
Pour cette émission, on voulait aussi une parole d'experte, c'est bien ça ?
Tout à fait. Certaines personnes sont aujourd'hui activement engagées dans la lutte contre les LGBT+ phobies, au travers d'associations par exemple.
Nous, on a rencontré Pauline Molnar de l'association Le Refuge et elle a bien voulu répondre à nos questions. Nous l'écoutons.
Bonjour, nous accueillons Pauline Molnar donc, qui représente l'association Le Refuge pour cette interview. Si j'ai bien compris, vous êtes déléguée départementale d'Ille-et-Vilaine pour Le Refuge et également déléguée générale de Bretagne pour l'association également. Donc vous travaillez pour l'association Le Refuge, donc c'est une association qui vient en aide aux jeunes LGBT qui sont victimes de discrimination et de rejet en leur donnant un abri et un refuge, si on peut dire ça comme ça. C'est exact ?
Tout à fait. Donc, on intervient auprès des jeunes de 18 à 25 ans qui sont victimes d'homophobie, de transphobie, de LGBT-phobie en général, au milieu de leur environnement familial, mais aussi leur environnement proche, au niveau de lieux géographiques où ils sont. Et on les recueille, effectivement, et on leur propose un logement et un accompagnement psychologique, un accompagnement social, tout le temps où on intervient auprès d'eux. On intervient de manière temporaire, on est un tremplin pour eux. Ça dure généralement, ils sont là en moyenne 6 mois chez nous. Et on est là pour leur redonner les clés pour qu'ils puissent prendre leur autonomie.
Est-ce que vous auriez, parce que j'imagine que vous faites des statistiques avec l'association, est-ce que vous auriez peut-être quelques chiffres à nous donner au niveau national, régional, sur les LGBT-phobies
Alors, au niveau du refuge, parce que je vais avoir des chiffres surtout sur le refuge, on a plus de 8000 jeunes qu'on accompagne et plus de 2000 jeunes qu'on héberge. On sait qu'au niveau des statistiques, il y a les rapports de SOS homophobie qui sortent chaque année. Donc le dernier est sorti récemment. On sait que notamment le chiffre qui est très inquiétant, c'est le taux de suicide des jeunes LGBT qui est largement supérieur à la moyenne. De 3 à 7 fois plus de jeunes LGBT se suicident. Ça, c'est des chiffres qui interpellent. Et on essaie d'apporter notre soutien justement aux jeunes qu'on accompagne et qu'on héberge pour qu'ils reprennent des repères, qu'ils puissent avoir la stabilité qu'ils souhaitent. On sait que chaque profil de jeunes est différent, mais est-ce qu'il y a des profils généraux de jeunes que vous aidez ?
Effectivement, le profil de chaque jeune est différent. Le point commun qu'ils ont, c'est la rupture familiale, la rupture avec leur environnement qui les amène au refuge. Ce qu'on constate, nous, c'est que on a subi la tranche d'âge 18-25 ans, donc la moyenne d'âge, c'est 21 ans. On a plus de garçons qu'on accompagne, qu'on héberge. Nous, ce qu'on peut repérer voilà, sur le profil des jeunes. Mais ils viennent de tout milieu social, de tout milieu culturel. Il y a différentes religions, il y a que ce soit un milieu rural ou urbain. Ça, c'est vraiment différent.
D'accord. Et est-ce que les jeunes que vous accueillez donc au refuge ont été victimes de discrimination ou de LGBTphobie en milieu scolaire spécifiquement, ou ça vient après peut-être l'école, ou c'est pas du tout à l'école que ça se passe la discrimination ?
Nous, ils ont tous été victimes de LGBTphobie au niveau de leur milieu familial, mais certains ont malheureusement eu des discriminations au niveau scolaire, plus ou moins fortes, de manière différente, très large. Les discriminations, ça va d'insultes à des agressions physiques. Voilà. Par chance, tous n'ont pas eu ces discriminations. Au contraire, il y a même des beaux parcours au niveau scolaire et des écoles qui ont aidé, qui ont accompagné les jeunes. Je pense notamment à un jeune qui était en première. On l'a accueilli, il était mis à la porte de chez lui, on l'a accueilli fin première, donc il est passé ses épreuves de français et l'établissement scolaire a tout mis en place pour l'accompagner. On a travaillé avec l'établissement scolaire pour qu'il puisse suivre sa scolarité. Et donc on a aussi des beaux exemples de ce niveau-là.
Aujourd'hui, on dit que l'on est dans un monde très tolérant et que chacun est libre d'être ce qu'il est. Mais il y a toujours des victimes de LGBTphobie, comme montre l'association. Et vous en pensez quoi ? Avez-vous des remarques à faire par rapport à ça ?
Effectivement, on constate que les agressions, elles sont toujours présentes, et encore trop présentes. Parfois même, elles sont même de plus en plus violentes sur certaines thématiques. A contrario, on remarque aussi une tolérance, notamment dans le milieu des jeunes. Alors, je pense qu'Internet, ça, l'accès à l'information aide. Mais d'un côté, il y a plus de tolérance, mais aussi, on fait constat d'agressions et de violences encore plus marquées, que ce soit même au niveau des pairs. Hein, effectivement, vous citiez le harcèlement à l'école, qui est encore très présent, mais aussi au niveau de la famille, au niveau de la société en général, et même si on élargit de certains pays, même parfois pas très loin de chez nous, qui encore interdisent les mariages homosexuels, il y a même des sanctions fortes pour les personnes qui sont LGBT, hein, prison ou autre, des choses même qu'on n'imagine pas. Encore des thérapies de conversion, donc il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Heureusement que beaucoup d'associations s'en emparent et que aussi des jeunes, comme vous le faites là, en parlent et passent le message.
En effet, il y a encore des progrès à faire. Justement, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez des idées sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire disparaître, enfin pas, c'est un peu utopique de faire disparaître complètement les LGBTphobies, mais d'aider à les réduire en France aujourd'hui.
Je pense que passer le message du message de tolérance et faire de la prévention dans les écoles, en fait, là, on touche les adultes de demain, qu'ils soient plus ou moins petits, que ça soit au collège, au lycée, créer des espaces de parole pour aborder ces sujets et les démocratiser. Pour aussi faire vaincre les peurs que les autres peuvent avoir de l'inconnu, ce qu'ils ne connaissent pas. Ça peut faire que baisser ces frontières-là et puis ces violences. L'école a un vrai rôle à jouer là-dessus.
Et une dernière question.
Du coup, avec tout ce que vous venez de dire, comment vous voyez l'avenir des personnes LGBTQI+, et de l'association en général ?
Au niveau de l'association, on est en extension. Nos chiffres augmentent d'année en année. L'association au niveau national s'est beaucoup développée. On est même dans les dom-tom. Il y a des places qui s'ouvrent petit à petit. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc je pense que l'association aura encore du travail les prochaines années. On ne peut que souhaiter qu'effectivement, avec les nouvelles générations qui arrivent
et montre cette ouverture d'esprit de plus en plus, je trouve, ça se répercute sur le quotidien, et notamment le quotidien des personnes LGBT. Et on espère que tous ces messages passeront et que ça continuera à faire son chemin.
Merci beaucoup, Pauline Molnar, pour cette interview et du temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à Pauline Molnar d'avoir accepté notre invitation.
À force de tolérance, nous finirons par venir à bout des discriminations, des préjugés et à faire en sorte que chacun puisse être ce qu'il est en toute liberté.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'association Le Refuge sur leur site internet. Je précise qu'il y a une ligne téléphonique d'urgence ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui prend les appels téléphoniques et les conversations SMS. Le numéro est à retrouver sur le site internet dans l'onglet contact.
On poursuit ce sujet sur les LGBT-phobies avec un témoignage maintenant, celui d'une personne non-binaire qui va vous parler de son expérience.
C'est bien ça. En effet, les jeunes LGBTQIA+, sont forcément présents dans les établissements scolaires. Les établissements scolaires, ils sont plus ou moins tolérants envers les élèves qui assument leur genre et leur sexualité.
Les jeunes peuvent aussi recevoir des remarques ou agressions de la part d'autres élèves.
On a voulu recueillir le témoignage d'une personne concernée.
On écoute donc Ed, jeune non-binaire, élève de 4e au Collège des Ormeaux, qui a bien voulu témoigner de son expérience dans le milieu scolaire.
Bonjour, nous sommes en compagnie d'un élève des Collèges des Ormeaux.
Bonjour, je m'appelle Ed ou Adèle, c'est aux gens de décider, je m'en fiche, voilà.
Tu es donc non-binaire. Comment as-tu annoncé au collège que tu étais non-binaire et comment ont-ils réagi ?
Vu que j'étais un peu triste à cause de ce que je ressentais, j'avais sorti ça en cours de maths à mes amis. Et ensuite, ils avaient très bien pris. Et à la professeure de maths, elle en avait parlé par la suite au CPE. Et donc, ils ont appelé mes parents et il y a eu un rendez-vous avec mes parents et le principal du collège et la CPE. Et du coup, on a parlé de ça et voilà, tout s'est bien passé.
D'accord. Et du coup, on t'y fait des changements au niveau administratif ?
Non, parce que par la suite, j'avais dit que je voulais changer de genre à ce moment-là parce que j'étais un peu perdue et je savais pas trop ce que je voulais. Sauf que du coup, j'en ai pas reparlé depuis et c'est que entre mes amis et d'autres personnes du collège, des élèves, qui me genre au masculin et au féminin et du coup, voilà.
D'accord. Comment te genre du coup les profs et personnel ?
Du coup, ils me genre toujours au féminin, mais voilà.
Ok. Et as-tu été déjà victime de discrimination ou de remarques au collège ou en dehors ?
Jamais. J'ai déjà entendu des trucs où peut-être qu'on me disait t'es un peu bizarre et tout. Ou alors on me demandait si j'étais un garçon ou une fille. Et ensuite, quand je disais que j'étais non-binaire, on était un peu en mode mais c'est bizarre. Mais rien d'autre, vraiment. J'ai pas vraiment de problème avec les personnes. Voilà, ça va.
D'accord. Et du coup, ton ressenti, en fait, ça se passe comment, en fait ? Comment t'as su que tu étais non-binaire ?
En fait, depuis la fin de 6e, je me posais des questions sur mon genre. Et donc, depuis, j'ai toujours eu des petits trucs dans la tête qui me disaient « c'est un peu bizarre que tu sois toujours au féminin ». Et depuis que j'ai dit à mes amis, ça se passe beaucoup mieux, mais sinon c'est tout ce que je pensais et tout, voilà, c'est tout.
D'accord. Bon, très bien, merci.
De rien.
Merci à Ed d'avoir répondu à nos questions.
Bizarre, c'est comme ça que beaucoup de personnes LGBTQI+, sont considérées, et parfois se considèrent elles-mêmes. Mais il faut continuer à faire des efforts pour être tolérant et rester ouvert.
On souhaite que les préjugés et les discriminations dont sont victimes les LGBT+, se réduisent jusqu'à peut-être, on l'espère, disparaître.
Syllabe. La radio sauvage.
On enchaîne notre beau programme avec un deuxième sujet. C'est désormais Tom et Tom qui vont nous parler des effets du Covid sur les bars, enfin la vie festive en général.
En effet, les terrasses ont pu rouvrir le 19 mai dernier et on voulait revenir sur comment cet arrêt long et brutal a été vécu par tous ceux qui sont concernés. Pour cela, nos deux camarades, Tom et Tom, sont allés dans la rue interroger les passants.
Tout d'abord, avez-vous l'habitude d'aller dans des bars ?
Ça m'arrive, oui, de,
d'aller prendre une bière de temps en temps.
Cela vous manque-t-il ?
Oui, ben écoute, oui, depuis plusieurs mois, c'est un peu tristounet là. Hein.
Avez-vous des idées de gestes barrières pour la réouverture des bars ?
Bon, ben, y a les distances à conserver, les mains à entretenir, c'est à peu près tout.
Trouvez-vous ça ennuyant que les magasins restent ouverts mais pas les bars ?
Non, les magasins, c'est... Les magasins essentiels, c'est normal qu'ils restent ouverts. Mais les bars font partie des lieux de rencontre et de liens sociaux. Et justement, c'est dommage qu'ils soient fermés, qu'ils restent fermés.
Et la dernière question, si dans un monde où les bars ne seront tous fermés, cela vous dérangerait-il ?
Alors, ça serait vraiment très triste. Hein. C'est un endroit de convivialité, les bars. Donc, un monde sans lien social, c'est un monde fini.
Bah oui, c'est bête, ça. Ils devraient tout laisser ouvert. De toute façon, c'est pas pareil. On va faire les courses, on peut attraper le Covid. On va chercher notre enfant à l'école, on peut attraper le Covid. De partout, on peut l'attraper le Covid, en fait. Donc, c'est un peu bête ce qu'ils font le gouvernement. Ouais.
Et c'est dans un bar. C'est dans le futur, les bars n'existeraient plus. Vous feriez quoi ?
Bah, c'est triste. Il y aura plein de pertes d'emplois, plein de personnes au chômage. Le monde sera plus pareil. Hein. Les bars, les milieux comme ça, c'est pas. C'est le genre d'endroit où tu peux te retrouver avec tes collègues ou tes amis décompressés de ta vie privée, de ton travail, tu vois. Et du coup, bah ouais, sans les bars, tout ça, c'est. Ouais, le monde, il serait bien triste. Hein.
Merci à toutes les personnes qui ont gentiment accepté de nous parler de leur ressenti.
Place aux pros maintenant. On va désormais écouter un professionnel du milieu. Il s'agit de Dan, ancien serveur du bar à Ancien serveur du bar à bière, le sur-mesure, situé à Rennes, près de la place Hoche. Tom et Tom, nos deux journalistes en herbe, l'ont rencontré.
Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter votre lieu de travail ?
Bonjour, je m'appelle Dan, j'ai 30 ans. Mon lieu de travail actuellement, il va changer. Mais j'étais au sur-mesure et à la reprise, je risque d'être dans un autre endroit. Enfin, à Flash, mais c'est pas encore signé.
Comment se passe une journée type au sein du bar sur-mesure ?
Ça dépend de ton planning, mais tu ouvres. En général, tu ouvres, tu mets ta terrasse en place. Tu prépares, tu remplis tes frigos. Et tu sers tes premiers clients, les cafés, les jus. Tu mets de la musique aussi. Tu nettoies tout ce qu'il y a à nettoyer. Et tu te prépares en gros pour le soir et le gros moment de l'apéro. Et que tes collègues ils arrivent et qu'ils soient à l'aise.
Donc toute la journée, vous préparez la soirée pour le bar.
Grosso modo, c'est ça. Ça dépend des bars. Genre le Tiana va faire beaucoup plus de terrasses, de limo et de limonade et tout ça. Et un bar comme le sur-mesure où on travaille sur la bière, ça va être vraiment à 17-18 heures où les gens arrivent après le travail, après les cours. Parce que vous êtes au collège, mais après au lycée, vous irez boire des coups.
Est-ce que ça vous arrive parfois qu'il y ait des clients qui viennent par exemple le matin prendre une bière ?
Ouais, ça arrive. Après, on peut s'autoriser de ne pas le servir. En gros, avant 10 heures, tu peux dire que tu ne sers pas d'alcool. Et après, en fonction de l'état dans lequel il arrive, tu peux le servir ou pas.
Comment avez-vous vécu le dernier confinement ? Est-ce que vous avez fait des commandes à emporter ?
Non, pas du tout. Le patron n'a pas pris ce choix-là et moi, ça ne m'a pas du tout dérangé.
Donc vous n'avez pas pu travailler pendant le confinement, pendant les trois confinements ?
Non, je n'ai pas travaillé des trois confinements.
Comment va se passer la réouverte de nouvelles restrictions ?
Notre joyeux gouvernement, comme depuis ces trois confinements, communique très peu avec les bars et les restaurants. Et avec toutes les autres entités, c'est-à-dire que même les collèges, les bibliothèques, les théâtres, il n'y a aucune communication de fait. Par exemple, ils ont annoncé les réouvertures. Sur les derniers confinements ou sur les dernières règles, quand on était encore ouvert, ils annonçaient la chose au journal le lundi pour des restrictions le mercredi. On recevait l'arrêté préfectoral le jeudi matin ou le mercredi soir. Quoi. Donc en gros, là pour les restrictions, on a exactement les mêmes infos que tout le monde. On n'a pas plus d'infos, on n'a pas un mail exceptionnel ou quoi que ce soit.
Donc vous ne savez pas si vous avez une limite de personnes dans votre nouveau bar où vous allez travailler ?
Alors si, apparemment, comme ils ont dit, comme le gouvernement a communiqué, c'est 4 personnes dans un premier temps, 6 personnes après. Là, le poste où je vais aller travailler, on est en plein air, donc il y aura quand même ces restrictions-là, mais peut-être un peu moins lourdes. aussi.
Voulez-vous faire ce métier à vie ou est-ce que vous voulez pour plus tard commencer à avoir votre propre bar?
C'est une belle question parce que justement de voir une crise sanitaire, ça fait voir un peu toutes les choses autrement. Étant donné que j'ai 15 ans, en tout j'ai 15 ans d'expérience en cuisine et en bar. Et du jour au lendemain, tu te retrouves, tu ne sers pas, voilà, on te dit que tu n'es plus très utile. Et après, il y a tout un débat sur, on ne trouve pas de personnel, mais ils ne payent pas le personnel. Donc, comment veux-tu aller travailler en restauration? Donc, j'adore ce métier, j'espère le continuer. Tout dépend de quelle voie il prend et comment il prend. Et ensuite, être patron, ce serait top, mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il faut un apport, il faut un endroit... Et il faut, faut vouloir aussi se battre pendant 20 ans à tenir un commerce.
La bière est parfaite existe-t-elle dans votre bar?
La bière parfaite? oui, forcément, parce qu'il y a plein de types de bières différentes et on trouvera forcément une bière au goût, au goût qui te convient. Donc forcément, la bière parfaite, elle existe pour chacun. Genre la bière parfaite pour toi, elle sera pas la même pour moi. Enfin, pour toi. J'espère pas que tu bois encore déjà de la bière. Non, tu peux le dire, on dira rien.
Dans le nouveau bar où vous allez travailler, est-ce que c'est de la même spécialité que votre ancien ou c'est complètement différent?
Non, c'est complètement différent. Le sur-mesure, c'est un bar à bière où du coup, il y a viande-bière qui tourne tout le temps. Là, c'est un espace en plein air. On fait de la petite restauration. On a deux pompes à bière et le but, c'est plus qu'il y ait des DJ qui viennent jouer le week-end et que tu puisses profiter du spot et de chiller tranquille et de pas te prendre la tête, quoi. Être un peu loin du centre-ville.
Il est situé où, ce nouveau bar?
Il est situé Plaine de Beaux. Tu sais, il y a les plages de Plaine de Beaux, il y avait eu un appel d'offres. Et ouais, il y a que lui, il a eu un des appels d'offres. Donc l'été dernier, il était ouvert. Là, il rouvre cet été vu qu'on lui autorise à ouvrir.
Merci, Dan. Merci pour cette interview et... La prochaine fois que je vous verrai, ce sera la Plaine de Beaux.
Un grand merci à Dan et à vous, Tom et Tom, pour cette interview et pour cet éclairage concernant la situation professionnelle des serveurs à Rennes.
On écoute de la bonne musique, on est défoncé, et je tombe sur la perle de la soirée.
Syllabe.
Bon.
La radio sauvage.
C'est bientôt l'heure de laisser place au débat. Mais avant ça, on va s'accorder une pause musicale bien méritée.
On écoute Feel Good du groupe Mythic Gorillaz et on se retrouve juste après. Restez avec nous sur le 88.4 FM.
Yeah.
cerveau.
C'était le titre Feel Good du groupe Corias, à l'instant sur Syllab. Vous êtes avec les élèves de 3e du collège Les Ormeaux.
Le labo est dans un triste, triste état. Pauvre Mickey. Allez.
Place au débat maintenant. On va tout de suite parler de la 5G, et plus spécifiquement de la 5G à Rennes et en Bretagne.
Pour débattre sur ce plateau, nos invités, Marina Marionneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes citoyenne rennaise et vous avez été tirée au sort pour participer à la mission d'études sur la 5G. Mise en place en novembre dernier par Pierre Janin, conseiller municipal à l'innovation et au numérique.
Et Alphaël, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militant écologiste au sein d'Extinction Rébellion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de démarrer et en guise d'introduction, je vous propose qu'on écoute la chronique que Nino, Ewen et Ali Hadar ont réalisée sur le sujet.
Nous avons choisi le sujet 5G car c'est un sujet actuel très important en ce moment avec sa potentielle arrivée à Rennes. On retient que la 5G va avoir un impact très important sur l'environnement. En effet, le Haut Conseil pour le climat estime que le déploiement de la 5G devrait engendrer une augmentation de 18 à 44% de l'empreinte carbone du numérique vers 2030, dans un rapport rendu en décembre 2020. De quoi donner des arguments à celles et ceux qui s'interrogent sur la pertinence sociétale de la 5G.
Merci Nino pour cette chronique que tu as préparée avec Ewen et Eliadar, qui nous permet de lancer le débat sur l'installation de la 5G.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, Marina Marionneau et Alphaël, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est précisément la 5G et peut-être que vous pouvez rapidement nous dresser un historique de la première à la quatrième génération.
Ah, je veux bien me lancer à ce moment-là. Alors la 5G, donc le G, c'est pas pour dire génération, donc ça concerne les téléphonies mobiles. Donc là, on est à la quatrième génération est très très bien installée quand même globalement maintenant et on est passé à la cinquième. La cinquième génération, elle va permettre de cibler beaucoup plus au niveau des ondes, de cibler en termes de direction, cibler là où ça envoie l'onde. En termes écologiques, ce sera une technologie qui sera plus économique normalement. On va avoir aussi normalement le filaire, toutes ces choses-là, la fibre qui va être en parallèle de la 4G et la 5G qui va rester bien présente. Hein. Et voilà. Et donc c'est terrible. Donc voilà, bientôt il y aura forcément tôt ou tard la 6G qui va se lancer, hein, bien sûr. Mais là, pour l'instant, on est en train de mettre en place tranquillement la 5e.
D'accord. Donc, la vraie différence entre la 5G et la 4G, pardon, c'est que la 5G dirige ses ondes vers un endroit particulier, c'est ça ?
C'est ça, oui, globalement, c'est ça. Sachant qu'on va utiliser aussi des fréquences qui sont différentes. C'est-à-dire que la 4G utilise une certaine fréquence d'onde. Et là, on va essayer de taper sur notamment le 26 GHz. Il n'est pas encore lancé complètement, le 26 GHz, ça ne devrait pas tarder. Mais du coup, le but, c'est de désaturer quand même des réseaux 4G qui sont complètement engouffrés quoi, là, pour l'instant et où il n'y a plus suffisamment de place par rapport à ça. Donc ça, c'est l'un des objectifs. Ce sera plus rapide, le temps de latence, quand par exemple, on veut charger une vidéo, quand on veut faire quoi que ce soit de ce type-là, ce sera beaucoup plus rapide. Donc c'est quand même une technologie qui en théorie est quand même plus performante que la 4G quoi.
D'accord, merci.
On se tourne vers vous dans un premier temps, Marina Marionneau, car vous avez été tirée au sort en tant que citoyenne rennaise pour participer à la mission d'études sur la 5G. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est cette mission d'études ?
Alors en fait, la 5G a été officiellement lancée par l'État. C'est pas la ville de Rennes qui a décidé ça. Donc elle va se mettre en place, il y a des marchés financiers qui ont été attribués déjà. Et la ville de Rennes a souhaité se concerter un petit peu avec les citoyens, notamment sur comment est-ce que ça va se mettre en place, ça, sur Rennes. Puisque là, le débat que nous, on a eu avec la mission 5G, c'était pas tant est-ce que oui ou non il va y avoir la 5G, puisque ça, c'est l'État qui l'a dit et c'était oui. Mais par contre, comment est-ce que ça va être mis en place ? Donc il y a des citoyens qui ont été appelés, tirés au sort, Moi, j'en ai fait partie. Et puis, à côté, il y a eu aussi des élus de la ville de Rennes et de Rennes Métropole qui ont été contactés. On s'est réunis les uns les autres au cours de pas mal de séances de travail. On a eu des professionnels qui sont venus nous voir et qui nous ont donné des informations qui étaient précieuses parce que nous, en tant qu'individus, on n'avait pas des connaissances du tout sur la 5G et sur le numérique. Donc, quand on veut prendre une décision sur un sujet comme celui-ci et qui va impacter des Rennais, bah, si on n'y connaît rien, c'est un petit peu compliqué de prendre la bonne décision. Donc, ce qui était intéressant, c'était ça. C'est qu'on nous a donné tout un bagage pour comprendre un peu mieux le sujet. Et ensuite, on est allé travailler un petit peu sur quelque chose de plus fin, donc sur des thématiques. On a eu l'environnement, on a eu l'économie, la santé, on a eu toutes ces choses-là. Et petit à petit, on a regardé, OK, qu'est-ce qui serait le mieux à notre sens, à nous, pour les Rennais, les Rennaises. Et on a débattu pendant de longues heures ensemble. Et puis le résultat, c'est un avis final qui a été donné à la maire et puis qui a été donné aux élus de la ville. Voilà.
D'accord. Et est-ce que dans cette convention, si on peut dire ça comme ça, il y avait des associations qui étaient représentées? Peut-être que vous en savez un peu plus, Alphaël.
De ce que je sais de la mission, je ne crois pas qu'il y ait d'associations qui étaient invitées. C'était vraiment des non-élus qui étaient tirés au sort, du coup, comme Marina. Ou alors, autrement, c'était des personnes élues. Du coup, je ne sais pas comment les élus se sont choisis pour cette mission. Donc, je ne sais pas si les associations rennaises autour des ondes ont été... je ne sais pas si on leur a proposé de participer à cette mission. En tout cas, nous, on n'a pas trop été au courant de cette mission. Je ne sais pas trop s'il y a eu beaucoup de communication, mais ça restait assez discret, on va dire. Ou alors, en tout cas, on a raté la communication.
Marina Mariano.
Oui, on a eu, du coup, des intervenants qui étaient d'associations, notamment. Donc, ça a été assez large. Hein. On a eu à la fois des professionnels du numérique, on a eu des philosophes, on a eu les opérateurs aussi, on leur a donné la parole. Et on a eu quelques associations qui ont pu discuter quand même aussi, dialoguer avec nous sur ça.
Alphaël, pardon, pouvez-vous nous expliquer à quoi consiste votre association ?
L'idée du coup dans Extinction Rébellion, c'est d'avoir un mouvement citoyen des désobéissances civiles qui parle du coup qui soit un activisme écologique, donc parler d'écologie, de climat et donc aussi de justice sociale, car toutes ces choses sont liées. Et du coup, d'avoir une dimension qui soit apartisane. On n'est pas rallié à un parti politique. On ne fait pas de politique non plus officielle avec présentation, élection au parti et tout, mais on essaie de faire de la politique au niveau du sol, on va dire, avec uniquement des citoyens et des citoyennes. Et l'idée, c'est de proposer des campagnes, des actions illégales, mais qui sont consciemment faites illégales pour essayer soit de sensibiliser, soit d'avoir indirectement un impact sur... des activités qui sont polluantes, qui carbonisent l'atmosphère ou qui détruisent des habitats de biodiversité, par exemple.
D'accord, merci. Concrètement, pourquoi sera utilisée la 5G ? À quoi servira-t-elle à Rennes, Marina ?
Eh ben, c'est toute la question, en fait. Nous, l'une des choses qu'on nous a expliquées, c'est que malheureusement, la 5G, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut en faire. Ce qu'on nous a appris, c'est qu'a priori, il pourrait y avoir des usages professionnels un petit peu plus. Par exemple, dans les hôpitaux, si vous voulez faire une opération délicate et précise avec des robots qui sont là aussi très, très précis et gourmands en énergie, la 5G, ça devrait améliorer cette technologie-là parce que ça ira plus vite en termes de réactivité. Vous pouvez aussi faire plus facilement des choses à distance. Et ça, par exemple, ce serait hyper, hyper intéressant. À côté de ça, pour les particuliers, ce serait plus un luxe qu'on aurait. Mais il n'y a pas de vrais usages qui soient clairement définis. Et ça, c'est un gros problème. Parce que finalement, la 4G pourrait très bien, sur des usages particuliers, nous suffire. Donc, c'est quand même une grosse question. On a lancé une technologie... mais on n'est pas vraiment sûr de l'intérêt derrière au quotidien.
D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alphaël ?
L'intérêt de la 5G, je crois que ça répond d'abord à une volonté de poursuivre la croissance économique et de l'imposer. En fait, on voit que le nombre de données arrive à saturation avec la 4G et que les opérateurs, les entreprises entendent de continuer à produire toujours plus de données, à vendre toujours plus le secteur du numérique. Et pour ça, du coup, on a cette 5G qui arrive et qui nous est imposée pour pouvoir proposer plus de numérique, pour proposer plus de données. Ça va aussi avoir des impacts forcément sur une production avec un effet rebond de plein d'objets connectés
qui ont un impact direct sur les habitats terrestres, là où par exemple les métaux sont extraits. Ça va aussi avoir un impact sur la consommation d'énergie, une hausse de l'électricité importante avec le nombre d'objets connectés. Même des fois, on parle de villes connectées maintenant, ce qui fait peut-être plus peur que rêver des fois. Enfin, ça dépend comment vous êtes. Et aussi, cette 5G, par exemple, peut avoir des effets, à mon avis, très dangereux pour notre sécurité, en tout cas notre anonymat face à les services de renseignement. On voit que, par exemple, en ce moment, il y a la loi renseignement qui commence à être réfléchie à l'Assemblée, où l'État veut faire passer toutes les données dans ses propres serveurs pour pouvoir, si cette loi passe, pour pouvoir du coup surveiller toutes ces données. On a aussi le travail toujours plus prolongé de coopération entre les États et les opérateurs, malgré le secret professionnel et malgré notre vie privée, pour pouvoir nous surveiller. Et cette surveillance qui serait faite avec des algorithmes qui demandent du coup une grosse capacité de calcul, donc encore une grosse capacité de données qui est prévue par la 5G. Quand on parle d'objets connectés, comme par exemple une voiture connectée aussi, il faut savoir que c'est des quantités de données qui sont faramineuses, qui se comptent en téraoctets, soit des choses qui sont impossibles pour ce qu'on a actuellement à notre niveau, à l'échelle de la vie quotidienne, quoi.
Donc vous pensez que en fait l'État voudrait toujours faire plus et ne pas s'arrêter, se contenter de ce qu'il a actuellement?
D'un point de vue, sur différents enjeux, oui, c'est le cas. Sur un point de vue de la croissance économique, on voit que cette croissance est imposée, alors que je ne sais pas si dans notre situation actuelle, on peut encore faire confiance à cet argument de la croissance économique, quand on voit que les injustices sociales que ça crée au niveau de la ville, au niveau du pays, et puis même au niveau international, des dominations économiques qui continuent entre pays pour les problèmes d'extraction et pour les problèmes de domination. Il y a aussi des questions de renseignement, de contrôle, de surveillance des populations et du territoire qui rentrent en jeu avec cette 5G. Au départ, la 5G, c'est l'électromagnétisme, c'est une technologie militaire qui peu à peu arrive dans la vie privée. Et du coup, cette croissance, cette surveillance, c'est des choses qui sont amplifiées au fur et à mesure par cette 5G, oui.
Et j'imagine que donc, cette surveillance de la population, vous en avez aussi parlé, Marina Mariono, pendant cette convention. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, la surveillance de la population, non, pas particulièrement. Cette question-là, finalement, ce n'est pas tant une question de 5G, mais plus une question du numérique de manière très large, y compris, du coup, avec la 4G, qui est déjà existante. C'est une question éthique. Donc, au final, ça, non, on n'en a pas vraiment parlé. Non.
Merci. Marina Mariono, pouvez-vous nous expliquer, en grosso modo, comment fonctionnera la 5G?
Alors, comment est-ce qu'elle fonctionnera de manière très, très globale, ou sur peut-être quelque chose d'un peu plus spécifique, ou comment elle sera installée, c'est ça?
Oui, c'est ça. Comment sera, en fait, installée la 5G à Rennes, finalement?
Ok. Ça, déjà, c'est encore en discussion avec la ville de Rennes, justement parce qu'ils attendaient un petit peu ce que la mission 5G allait en dire. Donc là, ils sont en train d'éplucher ces choses-là. Ce sera fait donc, en fonction des opérateurs. Donc finalement, ce sera quand même eux qui seraient les mieux amenés à dire les choses. A priori, donc, il y aura des antennes qui sont déjà présentes. Ils vont adapter certains boîtiers, certaines technologies sur certaines antennes qui sont déjà là. Et petit à petit, sur la ville de Rennes, ils vont installer des boîtiers. Alors la question, c'est quelle est l'information après qu'il y aura au public? Parce que c'est bien d'installer des antennes, mais les Rennais ont quand même un petit peu le droit de savoir où est-ce qu'elles seront mises, quoi.
Un dernier mot peut-être avant de clore cette première partie du débat.
Merci. J'aimerais juste faire une remarque parce qu'on parle des fois au futur alors qu'on est en plein dedans en fait. L'étape, comme je disais, de consentement était totalement n'a pas été faite du tout. On n'a pas consenti, je crois pas en tout cas à notre échelle de citoyen-citoyenne, à cette technologie. Et malgré ce consentement, c'est imposé. Il y a déjà les publicités qu'on voit, les technologies sont présentes, les antennes du coup qui ont déjà, en fait c'est sur les antennes qui proposaient déjà la 4G, les boîtiers 5G commencent déjà à être mis en place, notamment autour des grands axes de circulation. Donc finalement on en parle au futur alors qu'on est déjà en fait dans une situation de fait qui est déjà là.
Alors je suis complètement d'accord, ça c'est l'un des trucs que nous on a pointé sur la mission 5G et qu'on a trouvé plutôt inacceptable, c'est que là, la décision, elle a été faite par l'État avant même que nous, on soit consultés. Donc, en gros, on a dit, on met la 5G. Et après seulement, on a dit, on met la 5G, mais on va quand même demander un petit peu l'avis aux citoyens. Ça n'a pas été fait du tout dans le bon ordre, clairement.
D'accord. Merci à tous les deux pour donc, cette première partie de débat, hein, donc sur qu'est-ce que c'est que la 5G. Et avant d'entamer notre deuxième partie donc, sur les enjeux et les impacts, Nous écoutons ce que pensent les citoyens rennais avec un micro-trottoir.
Vous avez entendu parler de la 5G ou pas ?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il y a des choses plus importantes à faire, notamment disposer de la 4G sur tout le territoire.
Pour vous, à quoi ça sert la 5G ?
À télécharger de la data sur un téléphone plus rapidement, plus vite et beaucoup plus.
C'est la 5G.
Sur la 5G, on voudrait vous poser des questions.
Oh, alors là, non, parce que je ne m'y connais pas du tout.
Pas de problème.
Là, c'est un truc qui me dépasse.
Ok.
Prenez quelqu'un de plus jeune, peut-être.
Merci, au revoir.
J'ai déjà entendu parler de la 5G, oui. Ça reste un peu fumeux pour moi, mais...
Qu'est-ce que vous en pensez, du coup ?
J'en pense que c'est une nouvelle technologie. Je ne suis pas sûr qu'elle soit autrement utile que pour essayer de suivre et pister les comportements de chacun des consommateurs de l'engin.
Pour vous, ça sert à quoi ?
Je sais pas, c'est à avoir plus de connexion.
Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ?
Je pense que c'est pas forcément nécessaire, mais je pense que ce sera très difficile d'y échapper, parce que quelque part, c'est des lieux de pouvoir derrière tout ça, et qu'on peut pas laisser les choses filer comme ça, sans contrôle.
Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ?
Pas du tout.
À votre avis, comment est-ce que ça va se déployer techniquement ?
Là, j'avoue que je sèche. Je suis pas technicien de la chose.
Comment cela va se déployer selon vous ?
Je pense qu'il va y avoir les gros monstres, des fournisseurs de téléphonie style Orange, Bouygues et SFR qui vont se monopoliser le marché, qui vont déployer les antennes. Ils vont se focaliser sur les grosses villes, de manière à ce que le maximum de personnes puissent l'avoir. Mais comme la 4G, la 3G et certaines autres régions de France, ils vont être délaissés, quoi. Il y a des territoires qui vont être délaissés, des villes qui vont être délaissées, qui n'auront ni la 4G ni la 3G, et qui vont se sentir lésés. Donc voilà. Premièrement, c'est alimenter les grandes villes. Puis quand ils auront fait la 4G des petites villes, ils vont mettre la 5G dans les petites villes, quoi. Pendant qu'ils seront en train de concevoir la 6G, je pense.
Vous pensez que ce serait autour de quel prix ?
La 5G ? Ouais, je pense qu'ils vont, ils vont légèrement gonfler les prix sur les forfaits, mais ça va pas être fou, je pense. Je pense que ça va être crescendo comme avec la 4G, c'est-à-dire qu'ils vont limiter la data téléchargée par mois. Genre au début, ça va être 10 gigas ou 20 gigas, tant d'euros. Et puis dans 2-3 ans, quand tout le monde aura exploité la 5G au maximum, ça va être illimité comme on a aujourd'hui, quoi.
Quelles conséquences ça va avoir ?
Un monde de plus en plus connecté, et donc pratiquement une cartographie de chacun. Le risque, c'est le Big Brother, donc qui nous attend demain matin.
Pour vous, ça aurait quelles conséquences sur l'environnement et sur nous ?
Je sais pas trop. Il paraît qu'il y a des études qui montrent que les réponses sont un peu floues. Sur nous, je pense que les impacts seront légers. Le corps humain, les impacts seraient légers. Sur l'environnement, j'en sais rien. En fait, le problème, c'est tout ce qui va être production des matériaux, des antennes, etc., déploiement. Je pense que ça va être dévastateur, au moins sur l'installation. Après, sur long terme, je ne sais pas dire, bien qu'il faille beaucoup, beaucoup de data centers pour pouvoir télécharger ces flux de données en continu, comme ça, toute la journée, quoi.
Les conséquences sur l'environnement ?
Je sais pas.
On n'est pas dans le futur, nous.
Merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre aux questions.
Donc, dans ces micro-trottoirs que l'on vient d'entendre, on entend que les personnes interrogées ont tendance à se méfier de la 5G, à la voir sous un angle plutôt négatif. Donc, quels sont les vrais enjeux concernant notre santé, notamment pour les personnes électrosensibles, sans exclusivité ?
Ouais. Alphaël. Du coup, je connais pas les personnes, en tout cas, je suis pas personnellement électrosensible, donc je pourrais pas trop répondre pour ces personnes-là. Mais j'ai l'impression que, de manière générale, cette technologie fait peur. Ça produit ce qu'on peut appeler de l'éco-anxiété, à savoir que c'est une technologie qui nous rappelle qu'on a très peu de pouvoir sur notre environnement et même qui aggrave cette situation. Alors que finalement, pour se sentir bien, notamment dans cette situation où on a quand même une extinction de masse ou alors une destruction de masse de beaucoup d'espèces animales et végétales, quand on a notre atmosphère carbonisée qui menace les conditions de vie de l'habitat terrestre, on a du coup un sentiment qui est très d'urgence, quoi, qui est de danger, de vulnérabilité et d'impuissance. Et cette 5G, pour moi, rajoute encore sur ce sentiment-là et cette éco-anxiété. Donc pour moi, la première menace, en fait, c'est l'impact que ça peut avoir déjà sur notre santé mentale, à savoir que c'est une technologie qui fait peur, comme on a dit, pour des raisons écologiques, mais aussi parce que c'est imposé politiquement.
Et j'imagine donc que cette anxiété que génère la 5G, Marina Marionneau, vous en avez parlé lors de la mission 5G à la ville de Rennes.
Ouais, on a même beaucoup parlé. Il y a eu deux sujets qui nous ont vraiment passionnés, on va dire. Ça va être l'environnement et la santé. Déjà, les études vraiment propres et poussées sur le plan scientifique par rapport à la santé, déjà sur la 4G, l'effet des ondes de manière globale, il n'y en a quasiment pas, quoi. Il n'y en a quasiment pas. Donc là, on rajoute un filtre supplémentaire, ça va être la 5G. Donc on va cumuler plein d'ondes. Donc on a déjà la 2G, la 3G, la 4G. On ne va pas supprimer ces ondes-là en mettant la 5G. Elles vont rester là, elles aussi. Donc on rajoute des fréquences, des fréquences, des fréquences. Sur du court terme, a priori, et j'insiste sur l'a priori, il n'y a pas de conséquences sur la santé, mais on ne connaît rien sur du moyen terme et on connaît encore moins sur du long terme. Donc c'est un gros problème. Ça veut dire que là, on se lance sur une technologie, mais non seulement, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas sûr de ses utilisations, on ne sait pas exactement ce qu'on va en faire, et en plus de ça, il y a peut-être un risque sur la santé. Les autres soucis qu'on a, ça va être par exemple tout ce qui est posture. On est tous assis de plus en plus, on est tous de plus en plus sur nos smartphones, donc tête baissée, tout ça, donc il y a toute une posture qui va être probablement encore plus encouragée avec la 5G, parce que plus on nous donne accès à des choses rapidement, plus on consomme, plus on reste longtemps sur ces appareils-là. Ça va nous donner encore plus envie de rester là-dessus. Ça, plus potentiellement des problèmes sur la santé mentale. Ça, on a eu pas mal de dissensus sur notre groupe pour ça, donc voilà, ça a été des sacrés débats qu'on a eu.
On l'a dit en introduction de ce débat, le Haut Conseil pour le climat estime que le déploiement de la 5G devrait engendrer une augmentation de 18 à 44% de l'empreinte carbone du numérique vers 2030, dans un rapport rendu en décembre 2020. Que pensez-vous de ces chiffres, Marina Mariano?
Ah ben ça fait peur, hein, c'est pas très rassurant. Ça aussi, on en a parlé, et oui, clairement, la 5G, ça va pas être hyper écolo-friendly, hein. On va pas se mentir, parce que déjà, si vous voulez avoir la 5G, ça veut dire qu'il va falloir changer votre téléphone. Donc on va changer tous nos téléphones, juste pour avoir cette technologie-là, alors que la 4G, peut déjà suffire, hein, en fait. On ne sait pas bien les recycler encore, ces matières-là. Il y a, comme le disait un petit peu plus tôt Alphaël, il y a tout ce qui est métaux rares qui vont être extraits, toutes ces choses-là. Clairement, pour l'instant, c'est pas bien parti du tout. Alors la technologie en elle-même pure et dure de la 5G, comme elle redirige vraiment bien les ondes, comme c'est un truc qui est plus rapide, plus précis, en théorie, c'est moins gourmand. Sauf que c'est pas la 5G qui va poser un problème sur le côté environnement, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. Ça va être nos matériaux, ça va être les data centers, parce qu'il va falloir en mettre d'autres, en tout cas sur Rennes. Il va falloir en mettre d'autres pour vraiment bien mettre la 5G. Donc tout ça, ça va être des données encore plus, de l'électricité. Donc en apparence, la 5G, c'est vrai, c'est moins gourmand en énergie. Mais dans les faits, derrière, il y aura plein d'autres choses qui vont se passer. Et c'est ces choses-là qui vont poser de gros problèmes sur l'environnement. Et le Haut Conseil pour le climat a raison d'alerter là-dessus.
D'accord. Merci Marina Mariano. Qu'est-ce que vous en pensez, Alphaël, d'Extinction Rébellion?
Si j'aimerais rajouter un point aussi, c'est de savoir que la pollution qui est engendrée, du coup, comme dit Marina, pas uniquement par la 5G, mais par tout le monde du numérique autour, l'effet rebond, le nombre d'objets connectés, c'est une pollution qui n'est pas forcément visible pour nous qui habitons ici à Rennes ou même en France, mais c'est des fois une pollution qui est plutôt délocalisée à l'international, où on aura du coup cette extraction de métaux, ces grandes chaînes de flux, dans des conditions sociales et politiques qui ne sont pas forcément, qui sont peut-être terribles. Et du coup, ça, en plus, ce système entretient une forme de néocolonialisme. On va voir que la pollution va être plutôt délocalisée dans d'autres pays qui vont souffrir, et du coup, avec aussi les problèmes que cela pose, notamment avec le besoin de produits chimiques pour extraire des métaux qui vont polluer beaucoup des rivières. Savoir que quand on prend des métaux rares, on va devoir, pour avoir un gramme, par exemple, d'un métal rare, il va falloir qu'on explose des tonnes de roches pour pouvoir juste extraire cette petite quantité. Donc c'est un sacré problème. Et à notre niveau, en fait, ce qu'il faut, je pense, plus se poser, comme on n'a pas forcément ces grandes carrières de métaux, ou du moins qu'elles sont cachées, c'est de savoir se comparer juste, est-ce qu'on préfère avoir une antenne 5G ou un arbre au même endroit, et savoir est-ce qu'on peut vraiment comparer, est-ce qu'un arbre serait pas plus essentiel qu'une antenne 5G, juste un seul arbre, quoi.
D'accord, merci. Et justement, pour essayer de limiter un peu tous ces déchets numériques, finalement, qui vont être générés, est-ce qu'on peut choisir les personnes à qui on fournit la 5G? Par exemple, les autoriser pour certaines entreprises ou, comme vous le disiez, dans le secteur médical.
Et ben ça, c'est une proposition que la mission 5G a faite. Parce que, bah, justement, ça semblerait le plus intelligent. C'est-à-dire que entre pouvoir permettre au monde médical d'accéder à une technologie qui est meilleure, qui est plus rapide, donc sauver des vies, entre ça et puis se dire, bah, je vais avoir sur mon compte Netflix une vidéo qui va se charger beaucoup plus vite, il y a quand même un degré un petit peu différent, quoi. Entre sauver une vie et juste du loisir, bon, c'est pas trop la même chose. Donc, ce serait intéressant, effectivement, de pouvoir donner cette technologie-là aux professionnels, pardon, qui ont un réel besoin derrière, s'ils l'attestent, et faire beaucoup, mais beaucoup plus tard pour les particuliers, parce que pour nous, pour l'instant, très clairement, ça sert à rien, quoi.
J'ai une question à propos de ça. Si on choisissait les personnes, par exemple, pendant les hôpitaux, on devrait sans doute mettre du coup une antenne qui accepterait la 5G. Mais est-ce que cela ne polluerait pas encore aussi la ville où se situent ces antennes ?
Ah, c'est une bonne question, ça. Je vais avoir plutôt du mal à y répondre parce que finalement, ça va être plus les opérateurs qui pourraient le dire. Alors normalement, la 5G va se greffer sur des antennes qui sont déjà placées. Donc, par exemple, on a une antenne 4G qui est sur une rue bien spécifique. Normalement, on va rajouter directement sur cette antenne, des boîtiers, des choses comme ça. Après, la pollution en ville, avoir plein d'antennes de partout, c'est clairement pas top. Et l'une des recommandations de la mission 5G, ça a été de dire, bon, déjà, les gars, mutualisez vos matériaux. Peu importe les opérateurs, essayez de regrouper un petit peu pour éviter qu'il y en ait de partout. Et en plus de ça, s'il vous plaît, prévenez les Rennais, quoi, sur les sites internet, tout ça, parce que on a le droit de savoir avant que ce soit mis juste devant chez nous une antenne. On a le droit de pas avoir de pollution devant soi.
Merci Marina Marionneau. Pour conclure ce débat, très rapidement, clairement pour vous, est-ce que la 5G est indispensable, Alphaël?
Non, pour beaucoup de monde, je pense qu'elle est inutile. En fait, elle est indispensable peut-être pour les opérateurs pour continuer leur croissance, avec une question de profit derrière. Mais en fait, même quand on parle de responsabilité individuelle, quand on dit à chacun qu'on doit faire attention au numérique, c'est un peu faux quand on voit qu'on a une incitation maintenant dans notre société on nous incite toujours à utiliser le numérique. Même si c'est compliqué, c'est pas forcément réaliste d'imaginer une 5G uniquement pour les hôpitaux. Quand on voit que c'est avant tout une technologie commerciale et qu'on nous incite dans notre vie de tous les jours par les pubs pour trouver du travail, on nous incite au numérique. Pour nous défendre contre la pandémie du Covid, on veut du numérique. Pour gérer l'administration, on doit passer par le numérique. Pour la banque maintenant, il faut quasiment avoir une application obligatoirement. Pour les transports aussi. Du coup, en fait, on est dans une société imposée, alors que ce n'est pas une technologie essentielle pour moi.
D'accord, merci. Vous pourriez peut-être rebondir pour clore ce débat, Marina Marionneau.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Très franchement, je suis complètement d'accord. C'est indispensable? Non. Internet, de manière globale, avoir accès à Internet, oui, ça c'est indispensable. Est-ce que c'est la 5G la clé? Bah, peut-être pas, quoi.
D'accord. Merci à Marina Marionneau qui a participé à la mission d'études sur la 5G et à Alphaël, militant à Extinction Rébellion. Notre débat se termine. Voilà.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Syllabe.
Vas-y, à toi. Branche ce fil sur la bande positive.
La radio sauvage.
Nous allons maintenant écouter un peu de musique afin de faire une pause, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve juste après. Tout de suite, on s'ambiance avec le groupe Stupéflip et leur titre Understep.
Papa reste in peace. J'ai vu trop de trucs atroces, la tête coincée dans la matrice. Dans le crew, pas d'actrice, mon âme est pleine de cicatrices. Tes paupières se plissent, énergie vociférateuse. Le crew te fait des croches, pas coûte, ça va trop vite. Ça c'est ma nouvelle stup, attaque altruiste, anti-médiatique. Dit le truc est bandé comme un arc, tendu comme une catapulte. T'écoutes le groupe culte qui refuse le monde adulte. On est le flip-flip-crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'homme d'un stup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre. On est le flip flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'homme d'un stup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
Y'a des gens qui pensent que l'être humain il est mauvais, qu'il est méchant, qu'il changera jamais, bref qu'il est mauvais. Si les gens pensent ça, on va droit vers la guerre. Et si on va droit vers la guerre, y'a plus qu'à faire ses prières. Alors pense pas ça, pense pas que l'homme est mauvais. Il est bon comme moi, à part quand j'étais enfant. Décapiter les mouches, torturer les fourmis. Oui je me
me vengeais sur ceux qui étaient plus petits.
On est le flic flic fou, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'understup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
On est le flip flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'understup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre. Les petits cris au secours, la peur pète le score. Où qu'il est dans cet amour qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Faut que tu t'encarres, trip à mort. Ma clique a vraiment trop de cœur. Je check les bisounours, un cocard pour les prédateurs. Tes rêves se barrent en saucisse, faudrait que ça cesse. Ouvrir le vasistas, tu ronges ton os. Pense qu'à tes fesses, seul dans la populace. Le businessman crame, prêt à tout pour de l'oseille. Le king prend le chrome, réveille le bon gars qui sommeille.
On est le flip flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'understup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
On est le flip flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'understup,
la ligue anti-réactionnaire.
C'était Understup de Stupéflip. Vous êtes toujours sur CLAB, toujours en compagnie des élèves de 3e C du Collège des Ormeaux. Restez avec nous, on va tout de suite parler des réseaux sociaux.
Ceci est le nec plus ultra de la combinaison de camouflage. C'est génial.
Dernier sujet de notre émission du jour. Nos journalistes en herbe se sont intéressés aux réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, oui, mais pas utilisés par n'importe qui. En effet, Barbara, lui, Dusuba et Naomi, vous avez choisi de vous intéresser à l'utilisation de ces fameux réseaux par la personnalité politique.
Comme vos camarades, vous êtes allés sonder des habitants et habitantes de Rennes ainsi que des élèves du collège pour savoir ce qu'ils pensaient de l'arrivée des politiques sur les réseaux. On écoute.
C'est à propos de la politique sur les réseaux. Est-ce que vous suivez un peu ?
Non, je crois pas que je suis des politiques sur les réseaux. Je suis un peu, mais je suis la politique, mais je ne suis pas les personnalités politiques sur les réseaux.
Et à ton avis, pourquoi les personnes politiques s'emparent des réseaux ?
Parce que la politique, c'est de la com, et il faut bien qu'ils fassent un peu de com, du coup. D'accord. Et que ça leur donne une bonne image, là, surtout, en ce moment, les politiques, ils sont à moitié jeunes, donc ils savent utiliser les réseaux. Et puis, les jeunes, c'est le nouvel électorat, donc il faut bien qu'on soit là, quoi.
Est-ce que ta perception des politiciens a changé depuis que tu les as vus sur les réseaux sociaux ?
Un peu, parce que du coup, ça s'est modernisé et du coup, on a une autre perception. C'est différent. On a un point de vue différent parce que ils montrent un peu leur vie privée sur les réseaux. Du coup, on les voit autrement que quand on les voit, par exemple, à la télé pendant un discours.
Est-ce que votre perception des politiciens a changé depuis que vous les avez vus sur les réseaux sociaux ?
Déjà avec Donald Trump qui a été banni de plusieurs réseaux sociaux, ça change.
Moi je trouve Emmanuel Macron, la dernière fois il a fait un post sur Instagram sur ce qui va changer là dans les deux derniers mois à cause du Covid, et je trouve c'est bien parce que ça donne l'information à plein de monde sur Instagram.
Je pense que les politiciens se lancent de plus en plus sur les réseaux sociaux pour convaincre les jeunes dans les futures élections à venir, comme l'élection présidentielle. On a plusieurs politiciens qui se sont lancés sur Twitch, par exemple, et ils font pas mal de live en direct avec pas mal d'internautes. Et, c'est une
interaction.
Une façon de... de montrer leur programme, par exemple, ou de montrer qu'ils sont avec les jeunes qui sont présents.
Qu'en penses-tu du défi donné par Emmanuel Macron à McFly et Carlito ?
Je pense que c'est un bon moyen pour atteindre de différentes personnes d'un public différent, plus jeune. Ça permet aussi de sensibiliser les plus jeunes qui regardent McFly et Carlito. Et ils vont appliquer les gestes barrières plus facilement.
Qu'en pensez-vous du défi donné par Emmanuel Macron à McFly et Carlito ?
Moi, je trouve que c'est drôle.
Non, c'est pas drôle.
Et je trouve qu'on va pouvoir apprendre des trucs sur Emmanuel Macron. Du coup, ça va être intéressant.
Je trouve que vouloir aller voir des youtubeurs alors qu'on est en Covid, période de Covid, il fait des défis de youtubeurs alors qu'on doit porter le masque, je sais pas quoi. Il dit qu'il est même pas vacciné, il veut inviter des gens. Ça se trouve, qui sait qu'il a pas de Covid.
Il a fait un live sur Twitch pour parler de la situation des étudiants avec des influenceurs. Enfin, qu'en penses-tu ?
Personnellement, j'ai pas vu le live, mais je pense que le gouvernement pourrait être un peu plus clair envers les étudiants qui traversent une période très compliquée de leur vie. Sans doute la période la plus compliquée de la population. Enfin, c'est la population la plus impactée. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les confinements, les couvre-feux, on protège des vieux, mais on tue des jeunes dans leur vie sociale.
Merci à toutes les personnes qui ont répondu à nos micros. Et maintenant, Doulsouba, Naomi, Louis et Barbara, place à votre analyse.
Dernièrement, on a entendu parler des interventions de plusieurs politiciens sur les réseaux sociaux. On s'en souvient, un des premiers, c'était Jean-Luc Mélenchon.
Il a été actif sur la plateforme depuis le 1er janvier 2012, puis a été suivi par de nombreuses autres personnalités politiques. Et plus récemment, on a pu assister à l'apparition d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal.
Et le 19 février, le célèbre duo de youtubeurs McFly et Carlito sortent une vidéo sur leur chaîne YouTube. Ils annoncent leur participation à un challenge lancé par Emmanuel Macron consistant à faire une vidéo afin de promouvoir les gestes barrières.
Cette vidéo a fait polémique car on soupçonne un coup de communication de la part d'Emmanuel Macron. C'est quoi le but ? Vendre l'image du gouvernement populaire et promouvoir sa réélection pour la présidentielle de 2022.
On peut citer Thierry Verdel, chercheur au CNRS, qui a dit sur la chaîne France Info « Si on veut viser les jeunes, on va sur les réseaux sociaux, et si on veut s'adresser aux plus vieux, on va vers la télévision. »
Mais alors, qu'en pensent les jeunes et les étudiants ? Pour la plupart, ce serait une manœuvre au profit de la campagne électorale. Mais pas pour répondre aux réelles attentes des étudiants. Et toi, Louis ? T'en penses quoi ?
Pour ma part, je pense en effet qu'en général, les différentes personnalités politiques essayent de plus en plus de moderniser leur communication de façon à tirer profit de la jeunesse pour, par exemple, les campagnes présidentielles, élections municipales, etc.
Merci à vous, Doussouba, Naomi, Louis et Barbara, pour ce sujet très intéressant sur l'utilisation des réseaux sociaux par les personnalités politiques.
Syllabe, la radio sauvage.
C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.
On remercie Madame Combi, notre prof de français, pour nous avoir proposé ce projet et pour son acharnement.
Nous remercions également Manon et Léa, nos deux journalistes, pour nous avoir fait confiance et sans qui la réalisation de cette émission n'aurait pas été possible.
Et enfin, on remercie aussi les personnes interviewées pour leur temps.
Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Syllab, www.c-lab.fr, rubrique Les Ateliers Radio.
On espère vous revoir très vite sur les ondes.
Ciao.